dans le rétro.
Bienvenue dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
Bonjour à tous, contente de vous retrouver pour ce nouveau numéro dans le rétro sur France Bleu. Chaque semaine, on embarque avec vous tous pour un voyage dans le temps, une balade d'une demi-heure avec un invité que vous connaissez tous. Il fait partie des grands du petit écran depuis maintenant... longtemps. Plus qu'un animateur, qu'un auteur et qu'un accélérateur de talent, c'est un artiste. On n'est pas couché, les enfants de la télé, une nouvelle pièce de théâtre à la rentrée. Bonjour Laurent Ruquier.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien.
Je croyais que vous allez me dire « Oh, je suis fatigué ».
C'est vrai que je dis souvent ça, mais cette année, bizarrement, moins que les autres années.
Mais pourquoi ? Parce qu'en plus, vous faites plein de choses, encore une fois.
Je ne sais pas, peut-être la dernière flamme avant de partir.
À la rentrée, on va pouvoir découvrir votre dernière pièce, Le plus beau dans tout ça, au Théâtre des Variétés à Paris, avec Régis Laspalès, avec Pauline Lefebvre, Françoise Lépine.
Lépine, attention, à lapsus révélateur.
Ça commence. Françoise Lépine et Agustine Galliana. C'est quoi votre 11e, 12e pièce?
Je vais vous dire, je ne les ai pas comptées. Puis ça, c'est pas toujours facile à compter parce qu'est-ce qu'on compte les adaptations? Est-ce qu'on compte. Mais en gros, oui, ça fait une dizaine.
Alors, cette pièce, c'est deux gars en fait qui s'opposent complètement et qui craquent pour la même fille. Octave est attachant, drôle et cultivé. Matt est beau, charmeur et sûr de lui. Octave, c'est Régis Laspalès finalement. Ça aurait pu être un rôle pour vous, non?
Oui, bien sûr, si j'avais été aussi drôle sur scène que Régis Laspalès. Mais je me contente d'être l'auteur. Mais c'est vrai que mes pièces, plus ça va, en tout cas ces dernières années, plus elles me ressemblent. C'est vrai, vous avez raison, le personnage d'Octave, de Régis Laspalès, c'est plutôt moi. Encore que pas tout à fait, parce que dans la pièce, moi j'ai toujours été complexé, j'ai jamais aimé mon physique. Alors que dans la pièce, c'est pas le cas du personnage d'Octave, qui certes n'est pas, on va dire, le garçon le plus playboy qu'on puisse connaître, hein, mais... Lui, il ne s'en rend pas compte. Le personnage d'Octave, il se trouve plutôt pas mal. Ce qui n'est pas mon cas. Sa mère lui a toujours dit qu'il était le plus beau quand il était enfant. Donc
c'était pas votre cas non plus.
Non. Donc à partir de là, lui, il pense qu'il est très très beau et il voit pas trop pourquoi l'autre pourrait lui faire de l'ombre.
J'ai pensé tout de suite à une chose que vous avez dit plusieurs fois en interview. Vous disiez à une époque que vous seriez prêt à donner votre intelligence pour devenir beau. Ça vous travaille encore finalement alors?
Oui, enfin encore que maintenant, je suis pas certain. Thierry Ardisson, il y a pas si longtemps, m'a demandé, mais alors, vous auriez eu l'air malin, qu'est-ce que vous auriez fait avec le physique de Brad Pitt? Et je lui ai répondu, j'aurais fait la carrière de Brad Pitt, c'est vrai, mais je sais pas.
Non, vous travaille encore, vous écrivez une pièce quand même un peu sur cette thématique,
oui,
en 2019.
Parce que, au fur et à mesure des pièces qu'on peut écrire, on cherche des thèmes qui vous sont chers, et c'est vrai que celui-là, j'ai fait la politique à droite à gauche, je fais le coming out... pourvu qu'il soit heureux. J'ai fait aussi le côté amitié, ça, la fameuse phrase que j'ai entendue pendant toute ma jeunesse, je préfère qu'on reste amis, ça c'était avec Michel Bernier. Et là, avec cette pièce-là, le plus beau dans tout ça, Régis Laspalès m'ayant demandé d'écrire à nouveau pour lui, je me suis dit, voilà, c'est le thème idéal et l'acteur idéal pour ça.
À la rentrée, On n'est pas couché, 14e saison sur France 2. Quels sont les invités que vous n'arrivez pas à convaincre de venir dans cette émission?
Ah, ils viendront peut-être plus facilement l'année prochaine, puisque normalement je ferai l'émission sans les deux partenaires habituels qui font toujours peur. Donc on continuera à avoir des polémistes, mais ce ne seront pas des gens qui viendront chaque semaine.
Laurent Ruquier sur France 2 tous les samedis, donc en deuxième partie de soirée. On n'est pas couché, le dimanche 18h15, les enfants de la télé. Et à la rentrée, le plus beau dans tout ça, à découvrir dès le 13 septembre au Théâtre des Variétés à Paris. Vous êtes prêts pour notre voyage dans le temps?
Allons-y.
Vous allez rechanger physiquement, ça vous dérange pas?
Oh
on va retrouver la moustache, la permanente.
Tant pis.
C'est parti. « 24 février 1963, vous naissez au Havre, famille modeste. Votre père Roger, ouvrier et chaudronnier sur les chantiers navals. Votre maman Raymonde est mère au foyer. Vous avez 4 frères et sœurs, vous êtes le petit dernier. On va faire un bond dans le temps. Vous avez maintenant une dizaine d'années. Nous sommes dans un des HLM de la rue Paul-Louis Courrier, au Havre. Allez-y, ouvrez cette porte. Vous êtes assis devant la télé et vous regardez un jeu télévisé. »
Le francophonissime.
C'est ça, le francophonissime. Un jeu sur les bons mots de la langue française. Vos potes sont partis en vacances, vous restez au Havre. Vous vous ennuyez, c'est l'ennui qui vous a amené à la radio et à la télé?
Ah oui, c'était la seule fenêtre vers l'extérieur. J'étais timide, je n'allais pas forcément facilement vers les autres gamins de mon âge. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 14 ans à HLM. Après, mes parents ont déménagé, ont vécu dans une petite maison de la des hauteurs du Havre, mais où ils étaient locataires. Mais pendant mes 14 premières années, j'étais au cinquième étage de cet immeuble. Et oui, je m'ennuyais. Et je regardais la télé ou j'écoutais la radio, puisque c'est vrai que quand on n'était pas d'accord sur le programme avec les parents, l'avantage de la radio par rapport à la télé, aujourd'hui, non, chacun a son écran et peut regarder la télé comme il veut et faire les choix qu'il veut. Mais à l'époque, dans une famille, il fallait tout le monde être d'accord sur le programme qu'on allait regarder. Il y avait qu'un écran par foyer. Donc, le mieux pour s'évader, c'était encore la radio, parce que là, au moins, chacun pouvait avoir son petit poste et choisir le programme qu'il voulait écouter.
On dit que donc vous avez été élevé dans un milieu modeste. Comment vous vivez maintenant la notoriété, la réussite sociale, le rapport à l'argent? Tout ça.
Très bien.
Ouais. C'est vrai qu'elle est un peu débile, ma question, en fait. Elle est même conne.
Non, mais c'est pas vrai. Non, parce que c'est pas vrai. J'ai pas longtemps vécu ça très bien, puisque dans un premier temps, je trouvais que c'était pas juste, que c'était. Ouais. Je trouve toujours ça pas juste, mais je m'y suis fait. Et puis, c'est pas désagréable d'être un privilégié. J'en suis un. Il faut juste en avoir conscience et pas oublier ce qu'on était avant.
Laurent Ruquier, on va continuer notre voyage dans le temps. On va s'écouter un titre que vous connaissez forcément, Michel Delpech, Le Petit Rouquin.
Oh là là.
À tout de suite pour la suite dans le rétro sur France Bleu. Le Petit Rouquin sur France Bleu, sur la face B à l'époque du 45 Tours Les Divorcés. C'était Michel Delpech sur France Bleu.
Dans le rétro.
Bienvenue
dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
Laurent Ruquier.
C'est une chanson que je...
Ah bah parce que pourquoi Le Petit
Rouquin ?
Vous
avez choisi cette chanson parce que je la chantais régulièrement dans les noces et banquets familiaux, puisque c'est vrai que voilà, c'est une tradition, j'imagine dans d'autres régions aussi, mais enfin en tout cas en Normandie, tous les baptêmes, mariages, j'en ai eu des mariages puisque j'étais le petit dernier comme vous avez dit, j'ai quatre frères et sœurs qui se sont mariés, et donc j'ai eu le droit à tous les mariages, les communions de mes frères et sœurs, et donc voilà... À chaque fois, chacun chantait, interprétait une chanson, et moi, c'était Le Petit Rouquin. J'ai pas compris tout de suite, d'ailleurs, pourquoi.
Alors, pourquoi?
C'est plein d'années. Ben, on va revenir, finalement, au thème de la pièce, le plus beau dans tout ça, parce que Le Petit Rouquin, il est montré du doigt, il est celui qu'on n'aime pas à l'école, il est celui qui est délaissé. Voilà, c'est le vilain petit canard, le Petit Rouquin. Mais à l'époque, je me rendais pas compte que j'avais choisi cette chanson.
Mais vous étiez roux ou pas?
Non, mais dans ma tête, j'étais un petit ruquier, pas un petit rouquin. Et il y a une autre raison. Folle, d'ailleurs, que j'ai analysé maintenant, je peux le raconter, puisque hélas, ma maman n'est plus là. Mais une raison étonnante, c'est que la face A, c'était une face B, hein,
oui,
Le Petit Rouquin.
Oui, la face B, ouais.
La face A de ce 45 tours de Michel Delpech, c'était une chanson qui s'appelait Les Divorcés.
Ok, donc je l'ai dit il y a deux secondes, vous ne m'avez pas écouté.
Oui, je vous ai écouté, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Parce que tout simplement, c'était un secret de famille. J'entendais ma mère chanter cette chanson, Les Divorcés, tout le temps. Et j'ai appris... Sans que jamais ma mère, c'était un vrai secret de famille, j'ai appris que ma mère avait été divorcée, avait eu un premier mariage. Je l'ai appris qu'à l'âge de 16 ans. Jamais on en a parlé, jamais elle en a voulu parler, même ces dernières années. Mais j'ai compris que bien plus tard, pourquoi cette chanson avait de l'importance pour elle et pourquoi moi je m'étais rabattu sur la face B. Voilà.
À l'école, vous êtes plutôt un bon élève. Monsieur Lenné, un de vos professeurs, en distribuant les copies, vous dira que votre rédaction est plus l'œuvre d'un chansonnier que celle d'un élève de 3e. L'avenir lui donnera raison. 1980, premier stage à RTL. Une nuit, puis quelques passages dans les radios libres. En parallèle, vous faites des petits boulots, on va se télétransporter. Nous sommes en 1987. Vous avez quitté la Normandie pour vous produire sur scène. Nous sommes au caveau de la République à Paris. Dans le public, Jean Amadou vous repère et vous propose de bosser à Europe 1. Vous écrirez des textes pour lui et Maryse Gildas, des billets d'humeur aussi. À l'époque, vous êtes encore planqué, ça vous arrange?
D'être auteur, d'être nègre, puisqu'on disait ça. Oui, dans un premier temps, c'est pas mal de démarrer dans l'ombre, même si franchement, j'avais envie d'être au micro et de parler dans le poste, comme on dit. Pour être très précis, d'ailleurs, un ami qui n'est plus là, qui s'appelait Dadzu, qui était chansonnier, dessinateur, caricaturiste, c'est lui qui a dit à Jean Madou, viens au caveau de la République voir Laurent Ruquier. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai pu démarrer, grâce à Maryse, à Gildas aussi, qui est restée une amie, que je vois régulièrement et pour qui j'ai dépensé. Et Maryse m'a bien mis le pied à l'étrier, aussi en me donnant des conseils, en me faisant devenir parisien, moi qui étais le petit provincial débarquant.
En vous disant de raser votre moustache.
Par exemple.
Si. Enfin, vous l'avez fait parce que vous saviez que vous l'embrassiez à la clé, quoi.
Oui.
C'était pour ça.
Oui. À l'époque, d'ailleurs, Philippe Gildas commençait à se demander ce qui se passait. tête parce que qui était ce garçon qu'elle devait embrasser sur la bouche si jamais il rasait sa moustache. Mais je l'avais fait pour ça, c'est vrai.
Il y aura quelques expériences télé aussi. La classe sur FR3, ainsi fond sur Antenne 2. On va allumer l'autoradio maintenant, Laurent Ruquier.
Ainsi se termine le vrai faux journal de France Inter. Nous retrouverons peut-être demain à midi, à moins évidemment qu'il ne se passe rien, auquel cas nous ne manquerions pas d'interrompre nos programmes pour vous en tenir informés.
1990, vous débarquez sur France Inter pour bosser sur l'émission Le Vrai Faux Journal. C'est en 91 que vous deviendrez animateur radio. Vous resterez sur Inter pendant 6 ans. On se rappelle de l'émission Rien à cirer. Ensuite, il y aura à nouveau Europe 1 pendant 15 ans. L'émission On va se gêner. Depuis 2014, vous avez succédé à Philippe Bouvard pour animer Les Grosses Têtes sur... RTL. La radio occupe une place importante dans votre vie. Vous dites d'ailleurs que vous vous écoutez plus que vous ne vous regardez.
Ah oui, moi je n'aime pas me voir. Donc,
C'est remarquez... gênant avec les heures d'antenne que vous faites.
Ah oui, oh, pas tant que ça, ça c'est une légende aussi les heures d'antenne. Non mais c'est vrai.
Oh, vous avez fait des quotidiennes, oui. Vous avez quand même.
Oui, mais c'est quelque chose qui continue à me coller à la peau. On dit, ah on voit que lui à la télé. Pardon, mais on me voit...
C'est vrai, le week-end.
On me voit le samedi soir entre ouais. 23h et 2h du matin, faut quand même rappeler. Hein. Éventuellement pour ceux qui le veulent en plus, le dimanche soir, au moment des enfants de la télé. On me voit deux fois par semaine à la télévision. Je pense qu'il y a des gens comme Nagui, Stéphane Bern, Sophie Davant, Olivier Mine. Je peux vous en citer, mais 7 ou 8 qui sont plus souvent à l'écran que moi.
Vous avez bien vieilli quand même. Vous êtes modernisé quand même quand on voit l'évolution.
Vous voulez dire physiquement ?
Ah bah ouais.
Je vous remercie. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Non mais c'est vrai, vous l'avez remarqué, vous le savez.
Oui.
La télé, ça rend beau.
Je sais pas si la télé, ça rend beau, mais...
Oh bah Arthur... Quand on voit des images
c'est l'argent
de lui,
alors qui
ah,
rend beau.
Ah, c'est l'argent.
Peut-être, ouais. Non, mais puis le regard des autres, là. C'est le succès qui rend beau.
Il y a depuis plus de 10 ans maintenant, On n'est pas couché. Plus récemment, donc, Les Enfants de la télé sur France 2, le théâtre à la rentrée. On va revenir dans un instant avec Laurent Ruquier sur France Bleu. Merci de nous rejoindre sur France Bleu. Le 13 septembre, vous découvrirez la nouvelle pièce de Laurent Ruquier, Le plus beau dans tout ça, au Théâtre des Variétés à Paris. Laurent Ruquier avec nous en ce moment sur France Bleu.
Dans le rétro.
Bienvenue
dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
Un sacré parcours à la radio, à la télé et au théâtre aussi. On rappuie sur ce bouton, allez-y, parce que je sens que vous avez envie d'appuyer pour vous télétransporter.
Allons-y.
On y va.
J'appuie.
Nous sommes à Nancy en 1993. Vous êtes sur la scène du Vertigo. C'est la première de votre one-man show, Gentil pour la dernière fois. Le spectacle commence. Ce jour-là, vous faites votre coming out sur scène.
Il va y avoir un malaise. Tant pis, je le dis, j'avais envie de dire, je suis homosexuel, en de lettres PD.
Les gens, au moment où vous faites votre coming out, pensent à une blague. Il y a eu un avant et un après ? Ce sketch ?
Personnel, oui. Ouais. Il y a eu un avant et un après, parce que moi, je me suis senti beaucoup mieux en étant en accord avec moi-même et en faisant ce coming out. Autrement, sinon, ça n'a pas changé grand-chose sur mes rapports avec les autres.
Vos parents acceptent votre homosexualité, tout le monde n'a pas cette chance. Pourtant, vous, il n'y a jamais eu aucune allusion, aucune conversation à ce sujet avec eux. Le silence, dans ce cas, vous le prenez comment ? Comme une acceptation ? Comme une gêne ?
Non, une acceptation, parce que c'était vrai sur tous les autres sujets, c'est pas des familles où on parle, ouais. De toute façon. Donc,
et c'était pas une époque aussi où on parlait
non plus,
beaucoup.
Que ce soit une époque, un milieu social, donc vraiment, ne serait-ce que le divorce de ma mère, vous voyez, même ça, on n'en parle pas, alors que franchement, aujourd'hui, le divorce, c'est quelque chose...
C'est banal.
C'est un couple sur deux, c'est banal. Donc, vous imaginez l'homosexualité. Mais ils n'ont jamais eu aucun problème avec... puisqu'ils ont connu deux de mes compagnons, avec les compagnons avec qui j'ai pu vivre. Jamais il y a eu... Il n'y a jamais eu de questions, il n'y a jamais eu de discussions, mais il n'y a jamais eu de contradictions sur ce sujet.
Vous le dites, le divorce est devenu une banalité. Pourquoi l'homosexualité s'en est pas devenue une en 2019 ?
Ça devrait le devenir, ça va le devenir, mais c'est encore compliqué. Mais il faudra du temps, on progresse quand même. Et évidemment, on a l'impression qu'on recule. Une fois de plus, avec les réseaux sociaux, on peut lire
des propos virulents,
mais enfin qui existaient avant. Enfin, globalement...
Oui, mais maintenant que la parole se libère...
Bien sûr, et c'est pour ça que le combat n'est pas terminé pour banaliser, vous avez raison, c'est exactement le mot qu'il faudrait pour banaliser ce qu'est l'homosexualité. Il n'empêche qu'on ne peut pas dire que ça va quand même mieux qu'avant. C'est plus facile quand même d'annoncer en 2019 à ses parents qu'on est homosexuel que ça l'était il y a 20 ou 30 ans. Oui, ça, celui qui me dira le contraire ment. Maintenant, que ce soit facile dans tous les cas, Ça non plus, ça n'est pas vrai. Bien sûr qu'il y a encore un combat à avoir, bien sûr qu'il y a des progrès à faire, bien sûr qu'il y a toujours des vieux cons et des réacs et ceci. Mais enfin, il y en aura toujours.
La dernière fois, je suis tombée sur un témoignage qui était bouleversant. C'était le mois dernier, Samir, qui avait 30 ans en région parisienne, il a témoigné de son calvaire. Depuis qu'il est en CP, ses parents l'insultent, il l'humilie. Ses frères aussi, ils racontent, ils ne supportent pas qu'il y ait un PD dans leur famille. Donc il explique qu'à l'adolescence, c'était horrible, il pensait chaque jour à se suicider. Samir n'est pas seul, il y a encore des tas de gens.
Bien sûr, mais sur France Bleu.
Même calvaire.
La semaine dernière, j'ai lu et entendu, voilà, parce que les réseaux sociaux ont du bon aussi, ouais. Ils permettent d'entendre des choses qu'on ne verrait pas ou qu'on n'entendrait pas autrement. Quelqu'un qui a fait son coming out auprès de ses parents, je crois que c'est dans le nord de la France, et ses parents l'ont envoyé grâce à la complicité d'un médecin ami de la famille dans un centre psychiatrique pour que on le soigne. Je ne pensais pas que ça pouvait être possible en France, encore en 2019. Donc, je suis loin de vous dire vraiment que les choses sont réglées.
Ouais,
c'est pas ça du tout que je vous dis. La preuve, voilà les exemples que vous venez de donner, celui que je viens de donner. Maintenant, voilà, majoritairement, on peut dire que les choses ont quand même progressé.
Stéphane Bern, Christophe Beaugrand, Marc-Olivier Fogiel en couverture de magazine avec leur compagnon. Ça aide, justement ?
Oui et non, parce que justement, l'homosexualité sera banalisée le jour où un homo comme un hétéro protégera sa vie privée, quelle qu'elle soit.
On va ouvrir la boîte à gants, Laurent Ruquier, allez-y.
Ah ben ça, c'est ce qu'on appelle un porte-monnaie.
Ouais, une petite bourse, quoi.
Oui.
Pourquoi il y a ça dans la boîte à gants? Est-ce que vous savez?
D'abord, il paraît qu'il ne faut plus dire porte-monnaie. Moi,
Oui.
Non.
Bah, faut dire quoi?
Christine Bravo s'est longtemps moquée de moi parce que je parlais de mon porte-monnaie.
Bah oui.
Et il paraît qu'il ne faut pas dire porte-monnaie. Et j'ai toujours celle de mon père, par exemple, sur moi.
C'est pour ça.
Voilà. Mmh. Pas là parce que je n'ai pas pris mon cartable avec moi.
Bah alors?
J'ai toujours un petit cartable. Mais je ne pars jamais en voyage ou sans mon cartable ou sans ma bourse à l'intérieur de mon cartable. C'est un des derniers objets que quand mon père est parti, que ma mère m'a donné. Donc, j'ai gardé ce petit porte-monnaie de mon père.
C'est un porte-bonheur ?
C'est pas un porte-bonheur, c'est un souvenir. Je pense que c'est important aussi de garder des souvenirs. Et c'est vrai que parfois, quand on a quelque chose de concret, ça permet de penser plus souvent aux autres.
Merci Laurent Ruquier.
Merci à vous.
Le samedi soir, donc, vous êtes sur France 2, On n'est pas couché. Le dimanche aussi, 18h15, Les enfants de la télé, à partir du 13 septembre, la pièce Le plus beau dans tout ça au Théâtre des Variétés à Paris. Passez un excellent week-end à l'écoute de France Bleu. Prenez soin de vous. Salut. Merci Laurent.
Ben merci.